Rebecca, tu reçois maintenant Sandrine Turgis, maître de conférence en droit public à l'Université de Rennes.
Eh oui, bonjour Sandrine.
Bonjour Rebecca.
Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour parler ensemble de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, on va discuter des droits fondamentaux à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors selon le rapport du député Cédric Villani 2018, donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne, l'intelligence artificielle désigne moins un champ de recherche bien défini qu'un programme fondé autour d'un objectif ambitieux, comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la reproduire, créer des processus cognitifs comparables à ceux de l'être humain. Donc une définition qui peut paraître un peu complexe et qui est seulement une définition parmi tant d'autres. Pourquoi c'est aussi difficile de définir l'intelligence artificielle ?
Oui, alors c'est vrai que autant quand on parle du numérique, on a une définition avec une représentation plutôt binaire du monde, les 1 et les 0 qui permettent de représenter les sons, les images, les croiser après. Autant pour l'intelligence artificielle, on voit que les définitions sont fluctuantes. En tant que juriste, c'est intéressant sur ces sujets-là de travailler avec des collègues informaticiens pour avoir un éclairage. Alors, si on se reporte à la définition du rapport du député Villani, il montre que la définition est très large et fluctuante. Mais en même temps, quand on regarde les travaux, par exemple, du Conseil de l'Europe, on voit que le commissaire aux droits de l'homme, dans son rapport sur l'intelligence artificielle, il commence par poser le principe qu'il n'y a pas de définition, mais qu'il faut rapidement trouver des solutions juridiques pour saisir cet objet. Donc peut-être que la question de la définition, de façon assez particulière, peut-être pour cet objet juridique, doit être écartée pour se concentrer sur la réglementation.
Alors l'intelligence artificielle, elle est omniprésente aujourd'hui, c'est vrai qu'elle nous entoure. On la retrouve dans les voitures autonomes, mais aussi dans les systèmes de reconnaissance vocale, faciale. Quels sont les grands champs d'application de cette intelligence artificielle, peut-être les secteurs où sa place tend à devenir aussi de plus en plus prégnante dans les années à venir?
Alors, on a déjà pas mal d'exemples en matière dans l'industrie. L'industrie, donc les véhicules autonomes, en effet, les questions de cybersécurité. On voit qu'il y a des montées en puissance à la fois dans l'existant et dans le devenir en matière de santé, par exemple. Les interfaces aussi au quotidien avec les traductions automatiques et des questions de publicité, par exemple, qui nous sont proposées. Aucun champ ne va finalement être épargné, a priori, par l'intelligence artificielle. Donc, il est grand temps de répondre juridiquement à ces enjeux.
Et justement, aucun champ ne va être épargné. Ça devient une grande priorité économique pour de nombreux pays, cette intelligence artificielle, à commencer par les États-Unis et la Chine, qui ont déjà employé beaucoup de moyens pour ça, notamment avec la pandémie de Covid-19, ça s'est aussi accéléré. Comment se place l'Union européenne dans ce marché un peu à l'innovation de l'intelligence artificielle ?
Alors l'Union européenne a déjà adopté plusieurs stratégies, des stratégies sur le numérique et puis maintenant des stratégies sur l'intelligence artificielle pour à la fois être un acteur essentiel et un acteur économique, mais un acteur aussi du droit et de l'éthique sur ces questions d'intelligence artificielle, avec un livre blanc sur l'intelligence artificielle qui a été adopté dans le cadre de l'Union européenne, une proposition, un règlement actuellement en examen dans le Parlement de l'intelligence artificielle, pour que ce soit qu'il y ait aussi une boussole offerte par l'Union européenne sur ces thématiques d'articulation de l'intelligence artificielle, solutions économiques, mais contexte juridique fort pour protéger aussi les droits fondamentaux.
Et justement, quels sont ces droits fondamentaux qui sont mis en danger par l'intelligence artificielle ?
Alors, on va dire que l'ensemble des droits fondamentaux, l'ensemble des droits de l'homme va pouvoir être touché ici. Alors je ne sais pas si j'anticipe une question ultérieure. La question peut se poser de savoir si les droits tels qu'ils sont inscrits actuellement suffisent pour saisir ces questions de numérique et d'intelligence artificielle. On sait que depuis longtemps, que ce soit au niveau de l'ONU, du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, les droits de l'homme sont valables en ligne comme hors ligne pour les questions d'Internet. Alors, ils sont valables aussi dans le cadre de l'intelligence artificielle ou à l'égard des pratiques et des utilisations d'intelligence artificielle et du numérique de façon générale, mais se pose la question de savoir s'ils ne doivent pas être renforcés. Par exemple, dans le cadre de l'intelligence artificielle, on a ces questions de machine learning et de deep learning, les réseaux de neurones, avec une illustration, on nous parle de boîte noire, on ne sait pas comment finalement la décision est prise. Et c'est là que certainement il y a un catalogue peut-être à renforcer de droits fondamentaux.
C'est vrai que c'est des notions qui sont assez complexes et qui méritent peut-être d'être plus approfondies dans les grands textes juridiques qui peuvent parfois dater de plusieurs années. C'est aussi pour ça que ça a vocation...
Oui, alors il y a des travaux, en effet, actuellement, sur, notamment donc, au Conseil de l'Europe, un groupe de travail ad hoc sur l'intelligence artificielle, sur la faisabilité. Hein, le mandat qui leur a été donné, c'est la faisabilité d'un instrument juridique contraignant pour saisir ces innovations. Est-ce qu'il faut garder les textes tels qu'ils existent ? Pour le Conseil de l'Europe, c'est notamment la Convention 1950, Convention européenne des droits de l'homme, et puis les conventions, d'autres conventions. Et puis, est-ce qu'il faut réécrire pour consacrer de nouveaux droits sur, par rapport à ces innovations ?
Et on a commencé à le mentionner un petit peu aussi, mais il y a à côté de ce défi de l'intelligence artificielle, le défi des technologies numériques qui viennent un peu ensemble et qui sont également au cœur des préoccupations. Nos données numériques sont en fait en permanence collectées. À quoi ça correspond exactement ces données ? Qu'est-ce qu'on entend par là dans les données personnelles ?
Alors, les données numériques, finalement, c'est tout. Enfin, on va avoir la collecte des données à caractère personnel, n'est pas nouveau, mais par contre, le numérique a amplifié le phénomène à la fois dans le recueil de ces données et dans le croisement possible de ces données. L'utilisation, nous-mêmes, que nous faisons de ces outils numériques ne range rien en la matière. La pandémie à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure a multiplié notre utilisation aussi des outils numériques. Donc forcément, au-delà des traces qu'on a laissées, nos usages, on a continué à alimenter la machine. Donc, il faut vraiment à la fois être informé, s'informer. Il y a des solutions, des protections qui existent juridiques. Je pense notamment au RGPD, le Règlement général sur la protection des données. On a bien vu qu'il y a eu des évolutions. Au quotidien, on nous demande si on veut accepter ou pas les cookies quand on navigue de page en page. C'est peut-être intéressant de refuser les cookies, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on nous demande pour chaque page, même si c'est compliqué. Je parlais tout à l'heure avec vous, j'ai des collègues sociologiques de Rennes 2 qui ont parlé du consentement résigné sur les cookies, parce qu'à la fin, on n'en peut plus, on finit par accepter. Mais voilà, réfléchissons, essayons de comprendre ne donnons un consentement qu'en dernière solution, on va dire.
Parce que finalement, quand on accepte ces cookies, finalement, on accepte de divulguer une partie de nos données. Il y a un certain traçage peut-être aussi.
Voilà, les cookies sont présentés comme une amélioration du service pour l'utilisateur et de la navigation. Et en fait, ça va permettre de garder une trace de notre navigation. Et ces informations vont être partagées, vendues aussi par le site sur lequel... par le site sur lequel on circule vers d'autres acteurs du numérique qui vont nous proposer une publicité ciblée la prochaine fois qu'on fera une recherche, par exemple. Et tout ça va permettre de nous profiler. On n'a peut-être pas envie d'être profilé au quotidien. Voilà.
Et on a cité tout de suite le Règlement général sur la protection des données. Donc ça, c'est à l'échelon plutôt européen. Voilà. Et il y a également la CNIL, du coup, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est plutôt à l'échelle française. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi ?
Alors, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a été créée en 1978. C'est une autorité administrative indépendante. D'ailleurs, c'est la première autorité administrative indépendante en droit français. Dès 1978, elle s'intéresse donc à la protection de notre vie privée et à la notion de protection de la vie privée par rapport à l'informatique, avec appuyé sur une loi, la loi informatique et liberté. Le Règlement général à la protection des données, le RGPD que vous évoquez de 2016, a renforcé les pouvoirs de la CNIL, notamment en matière de sanctions, et d'autres CNIL européennes, ces consoeurs européennes. Et on a aussi, au point de vue de la CNIL, un rôle intéressant, c'est qu'elle a aussi un rôle de sensibilisation. Il est intéressant et il est utile d'aller sur le site de la CNIL, par exemple, pour s'informer. Il y a un certain nombre d'outils pédagogiques à disposition de tout un chacun pour savoir ce que sont les traces numériques, comment on peut se protéger aussi au quotidien pour éviter de laisser des données partout, multiplier les données.
Puisque finalement, on est tous concernés, on utilise tous justement les grandes entreprises telles que Google, Amazon, Facebook, qui justement collectent ces données au quotidien. Quel est leur intérêt à eux derrière, dans la collecte de ces données ?
Ces entreprises veulent mieux vous connaître pour vous proposer des services plus adaptés et notamment vous proposer des publicités plus ciblées et vendre vos données aussi à d'autres partenaires qui, là aussi, les données, c'est ce qu'on appelle l'or noir du 21e siècle. Donc, tout ça est un aspect économique derrière.
Et est-ce que c'est encadré, justement, au niveau de ces entreprises ? Il y a des limites à ces collectes de données ? Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence aussi
Alors, pour les données, on va avoir les protections qui sont offertes notamment par le RGPD. Après, si on parle de façon plus large sur l'action de ces acteurs de l'écosystème numérique, elles ont aussi des obligations, alors pas simplement par rapport aux données, on peut parler aussi des plateformes, des réseaux sociaux, de protéger, d'éviter qu'il y ait des violations du droit à la vie privée par des discours, des prises de position en ligne qui sont attentatoires aux droits des uns et des autres, par exemple. Après, les solutions qu'elles mettent en œuvre sont parfois elles-mêmes attentatoires aux droits et libertés. Donc, les modérations qui sont mises en œuvre ne sont pas toujours du bon niveau ou protectrices.
Ok. Peut-être qu'on peut revenir aussi sur la Chine, notamment, qui a mis en place un système de surveillance de masse. 600 millions de caméras qui surveillent chaque fait et geste des citoyens en Chine et leur attribuent notamment des points. Donc, c'est le système de crédit social chinois. Qui est particulièrement développée notamment dans la région du Xinjiang, avec l'oppression des Ouïghours derrière. Donc c'est, voilà, on a atteint certains sites un totalitarisme numérique par cette surveillance permanente des citoyens. Quelle est la position qui est adoptée par les organisations internationales face à ces violations du droit humain finalement en Chine ?
Oui, alors là, avec le crédit social chinois, on voit qu'en fait, toutes les dystopies qui avaient, enfin, un certain nombre de dystopies qui avaient pu être envisagées se réalisent, malheureusement. Par rapport à ce crédit social chinois, on voit que j'évoquais tout à l'heure la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle portée par la Commission européenne. Dans cette proposition de règlement, il y a un classement, une gradation de l'utilisation des intelligences artificielles entre un risque acceptable, un risque élevé et un risque inacceptable. Et donc, dans la proposition, ce crédit social chinois, en fait, un tel type de crédit social est classé en risque inacceptable, donc ne pourrait pas, alors dans la formulation actuelle du règlement, encore en discussion, ne pourrait pas être développé sur le territoire de l'Union européenne. On retrouve aussi dans ce risque inacceptable l'utilisation d'intelligence artificielle qui utiliserait les vulnérabilités propres aux individus, aux enfants par exemple, aux personnes âgées. Voilà. Et puis les autres utilisations d'intelligence artificielle, elles, sont classées soit en risque acceptable, soit en risque élevé avec les nécessités d'information, qu'on soit informé d'utilisation, qu'il y ait la possibilité d'avoir un human in the loop, qui est une décision humaine qui intervienne. C'est-à-dire que la décision qui nous influence vraiment ne soit pas prise simplement par une machine. Voilà, parmi quelques-uns des droits fondamentaux qui devraient être sauvegardés et qui doivent être sauvegardés en la matière.
Et est-ce que, en dehors de cela, pour le coup, qui sont encore préservés, il y a certains droits qui sont déjà, pour certaines personnes, qui sont déjà atteints par cette intelligence artificielle, notamment on parlait de détecteurs de mensonges mis en place au niveau des frontières de l'Union européenne. Est-ce que ça aussi c'est contesté ? Est-ce que ça...
Alors, les utilisations d'intelligence artificielle, la difficulté, on va avoir notamment ce qu'on appelle les questions de biais algorithmiques. C'est-à-dire que, puisque ça fonctionne sur un type de, en simplifiant, deux programmes, si au départ, ce qu'on a mis comme élément dans la machine, on peut créer des discriminations, finalement, que par rapport à un certain type de profil, on aura toujours le même type de réponse. On l'a vu avec des programmes qui voulaient lutter contre la récidive aux États-Unis, avec des discriminations raciales, algorithmiques raciales. Pour l'utilisation... de la reconnaissance faciale ou des problématiques d'intelligence artificielle aux frontières, on voit que finalement, l'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait certaines propositions qui étaient envisagées côté Union européenne avec des détecteurs intelligents aux frontières pour détecter la vérité, ceux qui voulaient rentrer disaient la vérité. Pour le moment, dans la proposition de règlement de la Commission européenne, ces utilisations ne sont pas classées en risque inacceptable, sont classées en risque élevé. Dans la proposition, on cite donc ces détecteurs de mensonges aux frontières comme une possibilité. Ce qui semble très, d'abord au niveau de la technologie peu fiable et ensuite au niveau de la protection des droits fondamentaux particulièrement problématique.
Donc même si c'est assez encadré dans l'Union européenne, est-ce qu'il y a des choses malgré tout qu'on peut craindre dans un futur proche, notamment concernant ces libertés fondamentales, ce droit humain?
Alors, on peut craindre qu'on ait l'impression que les algorithmes et les intelligences artificielles nous proposent des solutions objectives. L'objectivité des algorithmes est une difficulté. Et je vais conclure par le rapport du Conseil de l'Europe. Le commissaire aux droits de l'homme dit que si jamais un individu conteste une décision d'un algorithme ou d'une intelligence artificielle, il faudra faire attention à la question de la preuve, parce que comment lui va-t-il réussir à prouver qu'il y a eu une discrimination, une tendance d'un outil qu'on a du mal à capter particulièrement. Donc ça, ce sera un autre enjeu et une autre difficulté, c'est la question du contentieux ultérieur face à ces utilisations.
Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Turgis, d'être venue dans nos studios.
C'est moi qui vous remercie.